Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Il restera l'un des présidents les plus marquants de l'histoire américaine parce que ça a été le premier président noir, mais pas seulement, ce serait réducteur. Que devient Barack Obama? Entre ses livres, ses podcasts et autres contrats avec Netflix, il ne s'ennuie pas. S'il s'ennuie dans sa maison de Washington, il peut aller dans celle de Martha's Vineyard ou bien à Hawaï, où il fait construire sur les terres de son enfance. Mais c'est avant tout et toujours un amoureux de la politique. Alors, quelle est son influence et celle de sa femme Michelle? Beaucoup d'Américains n'ont pas abandonné l'espoir qu'elle se présente à la course à la Maison-Blanche. Hello everyone. Je profite d'une petite pause dans l'actualité américaine, même s'il se passe des choses, mais rien de très saillant pour vous donner des nouvelles de Barack Obama. Je pourrais vous donner des nouvelles d'autres anciens présidents comme Jimmy Carter, 97 ans, ou George W. Bush, ou bien Bill Clinton, Donald Trump, bien sûr, on en a beaucoup parlé et on va en reparler. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur Barack Obama. Alors, il a célébré ses 60 ans cet été. Il avait prévu une grande fête avec près de 500 invités sur la très chic île de Martha's Vineyard qui dépend du Massachusetts. C'est là aussi où les Kennedy, les Clinton passaient également leurs vacances. Les plans de Barack Obama ont été contrariés par le Covid. La fête n'a réuni que la famille et les amis proches. En fait, l'information comme quoi les Obama allaient réunir des centaines d'invités avait fuité. Et même s'il fallait être vacciné pour venir maintenir cette gigantesque fête, ça aurait été mal perçu au moment où on demandait aux Américains de faire attention et de faire des efforts pour ne pas propager l'épidémie. Sinon, Barack Obama, globalement, il est très discret. Enfin, c'est pas exact, il est actif, mais on le voit très occasionnellement et ses apparitions sont très étudiées, que ce soit pour faire passer des messages politiques qui lui tiennent à cœur ou pour sa promotion personnelle. Tout est calculé chez Barack Obama. Les journalistes accrédités à la Maison-Blanche pendant sa présidence racontent qu'il sortait rarement des clous, qu'il n'était pas très chaleureux, contrairement à l'image qu'il peut donner en public. Puis, après tout, quand on est président des États-Unis, on a sans doute autre chose à faire qu'à penser à être chaleureux et à sortir des blagues. Ces dernières actualités, si on peut s'exprimer ainsi, c'est la sortie d'un livre avec Bruce Springsteen, Born in the USA. Les deux hommes sont amis depuis 2008, alors que Barack Obama se lançait dans la course à la Maison-Blanche. C'est un livre où il parle de l'Amérique, où ils essaient de comprendre leur pays depuis leur position, depuis leur parcours. Bruce Springsteen qui dit par exemple, c'est le moment de réfléchir sérieusement à qui nous voulons être et au genre de pays que nous voulons laisser à nos enfants. Le livre est sorti à la fin de l'année dernière. Les deux icônes américaines en ont fait la promotion dans beaucoup de médias. Alors c'est vrai que ça avait de l'allure hein, en plateau ou sur les ondes. Bruce Springsteen et Barack Obama, le boss et le président. Parmi leurs nombreuses interventions, j'ai choisi un extrait d'une interview de la BBC. Le présentateur leur parle de fêtes à la Maison-Blanche et notamment de concerts qui se seraient poursuivis tard dans la nuit. Voici la réponse des deux hommes.
Well, what is true is we had some good parties at the White House. Woo! There's no doubt.
C'est vrai qu'il y a eu de belles fêtes, hein, dit Barack Obama. Et quand les gens comme Bruce jouaient, eh bien, personne ne voulait quitter la Maison Blanche et parfois ça se terminait très tard. Et il poursuit, il y avait des comportements étranges, disons inhabituels, sous les portraits de George et Martha Washington. Rien d'illégal, je vous rassure. Barack Obama raconte un souvenir en particulier. Un concert privé de Prince. Dans le livre d'ailleurs, il y a une photo où on voit Prince, Barack Obama et l'une de ses filles danser. C'était 2 ou 3 mois avant la mort du chanteur. C'était sans doute sa dernière performance, raconte l'ancien président.
In fact, in the book, I think there's a picture of me dancing with Sasha on stage with the Prince playing in the background. It was actually probably 3 months before he passed. So it was one of his last performances.
Alors, je vous disais que le livre s'appelait Born in the USA. Il s'appelle plus exactement Renegades Born in the USA. C'est une suite du podcast du même nom lancé par les deux hommes. Il y a une référence qui m'échappe. Hein. Je ne comprends pas pourquoi ça s'appelle Renegat. Sans doute une explication. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Si quelqu'un l'a, je suis preneur. Ce sont des séries de conversations d'une quarantaine de minutes. Alors, c'est intéressant. Hein. C'est une réflexion sur les États-Unis. Ils évoquent les droits des minorités, l'influence de la musique américaine, mais aussi la place de l'argent dans la construction du rêve américain. Il y a aussi des moments plus personnels comme la paternité ou l'influence de leur père. Et là, par exemple, c'est Bruce Springsteen qui parle.
My dad never really spoke to me through to the day he died. He truly didn't know how.
Et il dit que du vivant de son père, eh bien, ils ne se sont jamais vraiment parlé, que c'est un regret pour lui. Le podcast est proposé sur la plateforme Spotify. Michelle Obama en a également un, qui lui est plus porté sur la vie familiale, sur la psychologie. Le couple qui, vous le savez peut-être, envisage de quitter la plateforme après la polémique concernant Joe Rogan. On en a déjà parlé dans une précédente lettre consacrée au podcast aux États-Unis. Joe Rogan, c'est ce podcasteur très influent dans le pays, c'est tout simplement le plus écouté. Il a son franc-parler qui ne plaît pas toujours, et notamment au célèbre chanteur-compositeur Neil Young, qui a quitté la plateforme, estimant que Joe Rogan était un adepte de la désinformation, notamment concernant l'épidémie, que ses propos sur le vaccin étaient dangereux. Joe Rogan a d'ailleurs reconnu qu'il avait parfois dérapé. Il s'est excusé. Faut dire qu'il y a beaucoup d'enjeux, hein, puisqu'il a un contrat avec Spotify estimé à 100 millions de dollars. Mais d'autres vidéos sont sorties tout de suite après avec des propos très limites, notamment une émission où il raconte être allé au cinéma pour voir La Planète des Singes et que finalement, il s'est retrouvé dans un quartier où il se sentait déjà dans La Planète des Singes car il n'y avait que des Afro-Américains. Alors cette affaire soulève aussi une question importante, hein, d'ailleurs, les hébergeurs de podcasts sont-ils responsables des propos et des contenus alors que l'univers des podcasts ne cesse de grandir? C'est sans doute un débat qui va se poursuivre ces prochains mois et ces prochaines années. Pour revenir au couple Obama, ils envisagent donc de quitter la plateforme. Alors ce n'est pas fait, hein, mais ce serait une réflexion. Et leur contrat, en plus, arrive bientôt à terme. Sinon, la parole de Barack Obama pèse toujours autant aux États-Unis, et pour une raison simple, il est en tête des personnalités politiques préférées. Il y a un sondage trimestriel effectué par YouGov America sur la cote des hommes et femmes politiques, et Barack Obama arrive en tête avec 57% d'opinions positives, juste devant Jimmy Carter. Arnold Schwarzenegger est en troisième position, Joe Biden, pour information, est sixième et Donald Trump 13e. Tout ça pour dire que Barack Obama compte toujours dans le débat politique et qu'on attend, on écoute ses interventions. En règle générale, les anciens présidents des États-Unis ne se mêlent pas trop de politique intérieure. En tout cas, ils n'entrent pas beaucoup dans les polémiques. Donald Trump, c'est différent parce que lui, il continue à peser sur la politique américaine et il sera peut-être candidat pour 2024. Donc, sa position, pas vraiment celle d'un ancien président, mais d'un potentiel futur candidat. Barack Obama est tout de même sorti plusieurs fois de sa réserve, hein, pendant la campagne électorale de 2020. Par exemple, il a fait dans les dernières semaines des apparitions dans des meetings pour soutenir son ancien vice-président Joe Biden. Et de plus en plus, il prend la parole sur le droit de vote et sur la protection des minorités. Vous savez peut-être que la grande bataille du moment entre démocrates et républicains est polarisée autour du droit de vote. On en a parlé. Les États républicains prennent des mesures qu'ils estiment être des mesures de protection contre la fraude. Et pour les démocrates, ce sont des mesures pour limiter l'accès au vote des minorités traditionnellement, favorables aux démocrates. À plusieurs reprises, Barack Obama est monté au créneau aussi pour que les élus américains votent la grande loi électorale que proposait Joe Biden. Mais ce dernier n'a pas réussi à unir son camp, ce qui est pour l'instant d'ailleurs l'un des grands échecs de l'actuel président. En ce qui concerne le compte en banque de Barack Obama, Vous n'étiez pas inquiet, vous avez raison. En tant qu'ancien président, il a reçu l'année dernière 244 000 dollars de pension. Il y a aussi des sommes qui sont allouées pour le personnel, 188 000 dollars de rémunération, aussi près de 700 000 dollars pour les locaux, pour les communications. Il y a aussi un budget voyage. Selon Business Insider, si l'on tient compte des droits d'auteur sur leurs livres, les honoraires des conférences très lucratives, des contrats avec Netflix, Spotify, sans parler de nouveaux contrats commerciaux, bien, les Obama auraient une fortune qui dépasserait les 100 millions de dollars. Ils ont une maison à Washington, une autre à Martha's Vineyard. Barack Obama fait construire une autre demeure à Hawaï, où il a grandi. Les photographes ces derniers jours ont d'ailleurs saisi quelques clichés où on voit l'ancien président l'air renfrogné. Apparemment, il aurait des soucis sur les travaux. La polémique n'est pas allée très loin. Mais c'est vrai que comme Barack Obama contrôle parfaitement sa communication et qu'il ne fait pas beaucoup d'erreurs, ses adversaires cherchent des failles sans y parvenir pour l'instant. Alors, on ne peut pas parler d'Obama sans évoquer son héritage. Ça fait des années que dès qu'un nouvel homme politique apparaît avec un peu de crédibilité dans le camp démocrate, on dit c'est le nouvel Obama. Il y a eu des dizaines de titres là-dessus. Dernièrement, cette appellation a été donnée à une femme politique, Stacey Abrams. C'est une ancienne élue de Géorgie. Elle va d'ailleurs se représenter au poste de gouverneur après avoir échoué une première fois de justesse. Si elle gagne, elle deviendrait la première femme noire gouverneure des États-Unis. Et si on parle d'elle, c'est qu'elle est régulièrement citée en exemple, à la fois pour son combat pour le vote des minorités. Il y a même eu un documentaire qui lui a été consacré là-dessus. Mais aussi, on parle beaucoup d'elle pour sa capacité à faire la synthèse entre les différents courants du Parti démocrate. C'est quelqu'un qui a de la hauteur. Et puis, comme Joe Biden a 79 ans, comme Kamala Harris pour l'instant ne semble pas en très bonne position de lui succéder, même si on est encore très loin des élections, tout va changer. Les regards se tournent vers Stacey Abrams. Elle a 48 ans, elle a l'oreille de Bill Clinton et de Barack Obama. Elle plaît aux militants. C'est à coup sûr une personnalité à suivre, même si en fine tacticienne, pour l'instant, elle fait attention à ne pas brûler les étapes et à se concentrer sur les enjeux locaux sur la Géorgie, elle ne s'exprime pas du tout sur un éventuel destin national. Enfin, une autre rengaine dès qu'on parle d'Obama, du nom Obama, Michelle Obama va-t-elle se lancer en politique? Alors, elle a beau avoir dit non à plusieurs reprises, ça revient régulièrement et à nouveau ces dernières semaines aux États-Unis. Les nostalgiques de la période Obama, il y en a beaucoup et pas mal de démocrates ont du mal en ce moment à se retrouver dans le parti et tout ce petit monde espère toujours qu'elle décide d'avoir un destin politique national. Un récent sondage sur la cote des candidats démocrates évoquait que si Joe Biden ne fait pas un deuxième mandat, eh bien Kamala Harris est en tête tout de même avec 13% des intentions et Michelle Obama arrive en deuxième position avec 10%, alors qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas du poste. Si elle était candidate, elle dépasserait évidemment largement la vice-présidente dans les intentions de vote. Kamala Harris en tête avec 13%, certes, mais c'est pas beaucoup, alors que en tant que vice-présidente, elle est évidemment a priori la mieux placée. Selon les analystes américains, les démocrates pourraient être suffisamment désespérés pour insister après les midterms et aller voir Michelle Obama et en faisant valoir ceci, votre parti, votre pays ont besoin de vous pour arrêter Donald Trump ou le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, si ce n'est pas Donald Trump qui se présente pour les républicains. Un journaliste de The Hill, une des publications qui fait référence sur la politique américaine, écrivait récemment: Lorsque j'ai dit à un militant républicain que j'écrivais sur Michelle Obama en vue de 2024, il a tout de suite répondu que Dieu nous aide, elle pourrait battre n'importe lequel de nos candidats. Parmi ses atouts, bien, il y a ses engagements qui sont très populaires, que ce soit pour l'inscription sur les listes électorales. Elle aurait permis l'enregistrement de centaines de milliers d'Américains, surtout des jeunes. Son engagement aussi pour que les Américains se nourrissent mieux a connu beaucoup, beaucoup de succès. Sa popularité est au moins égale à celle de son mari. Sa personnalité plaît beaucoup, Et d'ailleurs, sa tournée pour son livre en 2019 avait rempli d'énormes salles aux États-Unis. Et puisqu'on est dans les scénarios, les scénarii fiction, si elle devenait présidente, est-ce qu'elle pourrait choisir son mari en tant que vice-président? Alors comme ça a de l'intérêt, on va dire. La réponse est non. La Constitution est claire, elle interdit d'être président à trois reprises. Et quand on est vice-président, on peut le devenir en cas de mort brutale ou très momentanément. 85 minutes, par exemple, Kamala Harris a été présidente pendant 85 minutes. C'était au mois de novembre, je crois, quand Joe Biden a dû subir un examen. Michelle Obama incarne la success story américaine moderne. Hein. Il n'y a pas d'affaires qui lui collent à la peau, pas de scandale. Une authenticité qui séduit les démocrates, les indépendants, les femmes et les électeurs issus des minorités. Et un duel Trump-Obama, les médias auraient de quoi faire des heures d'émission spéciale, mais bon, il manque pour l'instant un élément essentiel, son envie à elle. Voilà pour cette lettre d'Amérique consacrée à Barack Obama et plus généralement au Obama. Pour choisir la musique qui va conclure cet épisode, on va laisser faire l'ancien président, le 44e président des États-Unis. C'est un président qui lit beaucoup, qui s'intéresse à la musique, s'intéresse aux arts hein, plus globalement. Et chaque année, chaque fin d'année, il donne ses recommandations. Par exemple, niveau cinéma, ça a donné ceci, avec dans l'ordre pour lui Pig avec Nicolas Cage, puis Simoun Simoun avec Joaquin Phoenix, et enfin West Side Story. Niveau musique, il a mis en tête un titre de Farruko, c'est un artiste portoricain, mais j'ai choisi de vous faire écouter plutôt son numéro 3. Il s'appelle Genesis Owusu, c'est un artiste qui vient du Ghana, et ghanéen et australien. Le morceau s'appelle Gold Chains. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. D'écouter une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr, sur l'application RTL, ainsi que sur vos plateformes favorites.